Quelqu'un a dit dans sa prière que ce qu'on devait chercher, c'est pas la paix, c'est Jésus. Et c'était mon sujet de ce matin. Je voulais m'appuyer sur deux versets de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La croix n'a pas été programmée ni par Satan ni par les hommes. Avant la chute de l'homme, avant la fondation du monde, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, qui est aussi un Père aimant, avait prévu, planifié, décidé que le pardon des péchés, le salut, s'opérerait par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Messie. C'est ce que nous dit la première épître aux Éphésiens. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu a envoyé son Fils dans ce but. C'est le formidable don de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. La crucifixion de Jésus, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus crucifié, dit Paul. C'est plus qu'un événement historique, c'est le message central de la Bible. Le quart ou même le tiers des évangiles de Matthieu, Marc et Luc concernent la passion de Jésus-Christ. Et le seul moyen de salut. Déjà dans l'Ancien Testament, les sacrifices préfiguraient ce don de Jésus. Pour être admis dans le lieu très saint, sans risquer de mourir une fois par an, le jour des expiations du Yom Kippour, le souverain sacrificateur devait asperger le propitiatoire, le lieu de la présence de Dieu, avec du sang des sacrifices d'un taureau et d'un bouc. C'est Lévitique 16. Le péché doit toujours être puni pour que Dieu soit propice, propitiatoire. Dieu devient propice à cause du sang versé. Dieu devient favorable. La Bible dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et c'est Jésus qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice. Ce sacrifice a été annoncé déjà par Jean-Baptiste. Voici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus lui-même annonce son sacrifice bien avant son heure. Il annonce sa mort expiatoire à Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et puis à ses disciples, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus rappelle cela à ses disciples en instituant la Sainte Cène. Il leur rappelle l'importance du sacrifice. Les apôtres ont prêché que par la mort du seul saint, du seul innocent, le pardon peut être accordé aux pécheurs. Paul, dans les Romains, dit « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. » Pierre dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Jean, dans son épître, dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. L'agneau immolé est encore le thème central des cantiques célestes pour l'éternité. Vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 5, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » La croix, c'est le plan d'amour de Dieu pour le salut des hommes. Un amour fou de Dieu. 1 Corinthiens 1, 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du pardon possible. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La sagesse du plan de Dieu, le message de l'Évangile, la prédication de la croix sont une folie pour ce monde perdu, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les ennemis de la croix et même parfois pour les disciples de Christ. Pierre voulait aussi épargner la croix à Jésus et celui-ci le reprend sévèrement en lui disant « Arrière de moi, Satan ». C'est un mystère que ce sacrifice. Comment comprendre qu'un Dieu juste laisse mourir son Fils sur une croix? Comment expliquer que pour ôter le péché du monde, il dut le porter en être victime? Comment concevoir que pour que nous vivions, il a dû mourir? Comment juger juste une justification par l'exécution d'un innocent? La prédication de la croix, de la bonne nouvelle, n'a jamais été intellectuellement correcte. Elle déclenche contre les rachetés la moquerie, le rejet, le mépris, l'opposition, parfois même la persécution. Pour le monde, c'est une doctrine simpliste, désuète, absurde, fausse, un scandale. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu réalise ses desseins éternels avant la fondation du monde. Son plan de salut, sa justice, en dépit d'un acte injuste, meurtrier et diabolique. La croix est un scandale pour ceux qui n'acceptent pas que la grâce de Dieu est imméritée. C'est une humiliation pour la nature humaine, pour la raison orgueilleuse. Il faut accepter humblement ce don de grâce de Dieu sans essayer, comme dans les religions humaines, de se sauver soi-même. La vie par la foi, c'est aussi une folie selon le monde. Les hommes préfèrent une religiosité d'apparence, des actes extérieurs qui glorifient l'homme, sans qu'il y ait de changement du cœur en profondeur, sans purification du péché, sans mort à soi-même. Vous me direz, si Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique, alors pourquoi tant de souffrances? Pourquoi les catastrophes? Pourquoi les guerres? Pourquoi les famines? Les maladies, la mort, la violence, l'injustice? Dans la Genèse, il est dit, le péché est entré dans le monde et a provoqué une rupture entre Dieu et l'homme, entre Dieu, entre la source de l'amour, de la vie et de l'homme. Le mal, la souffrance et la mort sont alors entrés dans le monde. Dans Genèse au chapitre 6, verset 6, il est dit, Dieu fut affligé. On peut traduire cela aussi par secoué de douleur. Car ce qu'il avait fait de meilleur, l'homme lui tournait le dos. Dans le livre de Jérémie, à trois reprises, au chapitre 7, 19 et 32, Dieu affirme que l'idolâtrie, les meurtres, les abominations des nations ne lui étaient même jamais venues à la pensée. Et Dieu est parfois obligé d'utiliser la souffrance pour nous rendre attentifs. Ceci pour notre salut. Dieu avertit Pharaon progressivement jusqu'à ce que son cœur soit complètement endurci avec les 10 plaies d'Égypte. Il a envoyé des serpents brûlants contre son peuple rebelle. Puis il offre le signe du serpent d'airain pour les sauver. En Nombre 21, dans le même livre, au chapitre 25, le peuple se livre à la débauche avec les filles de Moab. Ils adorent Baal-Péor, qui signifie le maître de l'ouverture. Ils s'ouvrent aux païens. Et 24 000 personnes périssent en une seule journée. Pensez encore à tous les jugements qui sont prédits de la fin des temps. Chaque jugement est une manifestation de l'amour de Dieu qui avertit les hommes, qui voudrait leur éviter une catastrophe finale, la perdition, la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer. Vous savez peut-être que Jésus-Christ a plus parlé de l'enfer que du ciel. Au jour de la fureur de Dieu, de la colère de l'agneau, Dieu déversera sa colère contre ceux qui l'auront rejeté jusqu'à leur dernier souffle. Cette extraordinaire manifestation d'amour infini, cet immense pardon, plus grand que le Yom Kippour, l'expiation une fois pour toutes, le rachat de nos âmes, la grâce du salut, devrait nous pousser à adorer notre Dieu pour le don merveilleux de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant pourrait détruire le mal immédiatement. Mais qui subsisterait? Car nous avons tous péché. Et parce qu'il nous aime, Dieu donne du temps aux hommes pour se repentir, un temps de grâce. Dans Luc 3, Jésus parle de ces Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de ses sacrifices, de ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tuée. Et il dit, elle n'était pas plus coupable que les autres. Mais il invite tous ceux qui sont choqués par ces événements, tous ceux qui sont choqués par les catastrophes et les guerres, à réfléchir au sens de la vie, à se repentir, à revenir au Créateur et à leur père. Dans notre monde individualiste, nous avons aussi de la peine à comprendre que les erreurs des uns ont des conséquences sur d'autres, que nous sommes solidaires, que parfois des innocents payent pour des coupables. On a parlé de la guerre ce matin. Des innocents meurent. Il y a des millions d'enfants dans les rues sur d'autres planètes. Des millions de déplacés à cause des guerres. Des millions de persécutés. Peut-être plus qu'au premier siècle de l'Empire romain. La souffrance injuste, celle des innocents, n'est-elle pas un rappel du sens de la croix de Jésus ? La transgression de la loi demande une sanction, et seul un innocent pouvait mourir volontairement pour le péché du monde. Jésus est le seul innocent, le seul juste qui pouvait payer le salaire du péché à notre place. Tout autre homme que Jésus-Christ qui donnerait sa vie, il serait mort simplement pour ses propres péchés. Un pécheur ne peut pas justifier un pécheur. Le Christ crucifié a expié le péché. Il a vaincu le diable et la mort. La mort a été réduite à l'impuissance. Hébreux 2, par la mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra éternellement. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu révélé aux prophètes dans les Écritures. Souvent, il disait qu'il a fait telle chose afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, de Jérémie. Même sur la croix, il cite les psaumes quand il dit « J'ai soif », quand il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Dieu veut que le plus grand nombre soit sauvé du péché et de ses conséquences. J'étais médecin à la prison à Belfort et un jour, je faisais des réunions sur des thèmes médicaux, comme aussi sur la violence, sur la drogue. Et un jour, un groupe de prisonniers musulmans m'a posé cette question. « Quelle est votre définition de Dieu ?» Alors je leur ai dit, c'est « Pour moi, Dieu est amour. » Et tout... C'est comme un diamant, toutes les facettes sont des facettes de l'amour. Dieu est un. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas d'amour sans fidélité, sans justice, sans sainteté. Ce Dieu infiniment grand s'est mis à notre niveau. Il a pris notre condition humaine. Il s'est approché de nous en envoyant Jésus, qui allait de lieu en lieu, guérissait les malades, délivrait les possédés, pardonnait, consolait, réconciliait l'homme avec Dieu. Et il affirmait, celui qui m'a vu le Père. Jésus est venu pour nous montrer qui est Dieu. Il n'est pas venu expliquer le mal et la souffrance. Il est venu les porter lui-même et a connu aussi cette rupture sur la croix. Il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été tenté, il a souffert physiquement le fouet, les coups, le supplice de la croix. Il a souffert spirituellement, il a connu l'injustice, la solitude, le rejet. L'abandon, son cœur fut brisé. Lors de l'agonie, de l'angoisse à Gethsémané, Jésus a dû supporter, ressentir le poids du péché du monde. Il expérimentait ce que représentent les ténèbres du dehors. la gêne, ce baptême de feu, le tourment des perdus. Sur la croix, Jésus, homme, en plus de sa douleur physique, fut vraiment abandonné de son Père. Il est devenu péché, malédiction, il portait le poids de la colère divine. Jésus-Christ n'est pas indifférent à la détresse des humains. Il a pleuré sur la mort de son ami Lazare. Il veut être avec nous, il veut nous accompagner dans les moments difficiles, nous donner sa paix, nous entourer de ses puissants bras d'amour. À la croix, il s'est chargé de nos péchés, de nos souffrances humaines. Je cite ici John Stott qui écrit « S'il n'y avait pas la croix, je ne pourrais jamais croire en Dieu. Le seul Dieu en qui je crois, c'est ce Dieu ridiculisé par Nietzsche, le Dieu en croix. Dans le monde réel où l'on souffre, comment peut-on adorer un Dieu qui serait immunisé contre la souffrance ? J'ai visité de nombreux temples bouddhistes. Je me suis tenu respectueusement devant la statue du Bouddha, avec ses jambes croisées, ses bras repliés, ses yeux clos, l'ébauche d'un sourire sur les lèvres, son regard détaché des agonies du monde. Mais chaque fois, après un moment, je me suis détourné. En imagination, je me suis alors tourné vers cette figure sur la croix, solitaire, tordue et torturée aux mains, pieds transpercés par les clous, le dos lacéré, les membres démis, l'arcade sourcilière ensanglantée par les épines, la bouche sèche et désespérément assoiffée, plongée dans les ténèbres, loin de Dieu. Voilà le Dieu dont j'ai besoin. Il a délaissé son immunité à la souffrance. Il est venu dans notre monde, de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. Il connaît chaque nuance de ma souffrance. Le pardon et l'expiation sont conformes à la nature de Dieu. L'apôtre Paul parle de la bonté et de la sévérité de Dieu. Conforme à sa justice, à sa sainteté, c'est un Dieu qui juge justement. On l'a lu ce matin aussi dans le prophète Ésaïe. Un Dieu qui punit le péché. Et c'est aussi un Dieu d'amour, de compassion, qui pardonne les cœurs brisés, qui sauve. Le Dieu de grâce, à cause du péché du monde, déverse sa colère contre Jésus-Christ crucifié. Et sa justice est satisfaite. Lui, sans péché, a été fait péché pour nous. Lui, éternel et immortel, a dû prendre notre condition, naître pour mourir. Le pardon sans expiation serait une injustice. La croix nous montre la gravité, l'horrible réalité du péché. C'est une rébellion contre le Dieu saint. Aucun péché, petit ou grand, n'est acceptable aux yeux de Dieu. Ce ne sont ni nos larmes, ni nos bonnes œuvres, ni notre piété qui nous sauveront. Ce sacrifice à la croix devrait aussi nous affliger sur notre péché, susciter notre repentance. Avant d'être sauvé, il est essentiel que l'homme prenne conscience qu'il est perdu. On ne sauve pas des gens non perdus. Il est séparé de Dieu, esclave du mal, aveugle, incapable de plaire à Dieu. Ésaïe 64 dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est important de prendre conscience que nous sommes petits, que nous sommes pauvres. Et les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Que signifie que Dieu désire un cœur brisé, un esprit brisé et contrit ? Il ne désire pas nous humilier. Mais un cœur brisé, ce n'est pas un cœur blessé, plein d'amertume, de rancœur, de révolte ou de colère. C'est un cœur qui arrive au bout de ses ressources humaines, de ses mérites, de ses revendications, qui désespère de lui-même, de sa propre justice, qui lâche prise, qui s'abandonne et se cramponne à Jésus-Christ, qui implore sa grâce, en un mot, qui se repent. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Ce n'est pas les cœurs blessés. Aujourd'hui, ta vie peut changer si tu viens repentant au pied de la croix et si tu reçois par la foi, comme un petit enfant, le pardon de Dieu. Dans les Actes, au chapitre 10, quand Pierre va chez Corneille, à la fin du chapitre, il annonce le pardon des péchés. Il dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Ne néglige pas ce si grand cadeau. Dieu t'appelle, Dieu t'invite, Dieu te supplie. Ne rien dire, c'est dire non. Et Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, vous trouverez la paix de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans Jean 7, le jour de la fête, Jésus s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Beaucoup de gens n'ont pas soif. Mais à travers la souffrance, à travers les épreuves, Dieu crée des soifs dans ce monde. Si quelqu'un a soif du seul vrai Dieu, si quelqu'un a soif d'être sauvé du Dieu d'amour qui offre la paix, l'espérance, la vie éternelle, parce que vous avez été créé pour vivre en communion avec Dieu, comme un instrument de musique entre les mains d'un musicien. La foi, c'est croire à l'amour de Dieu et lui faire confiance, quel que soit votre chemin. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne nous aimerait pas. Si vous n'avez pas la révélation de l'amour de Dieu, du don de Dieu, alors vous ne pouvez pas avoir la foi. La foi vient de cette révélation de l'amour de Dieu, cette certitude de l'amour de Dieu. Et la foi qui justifie et sauve doit être accompagné d'un choix, d'un engagement de fidélité à Dieu, d'une volonté de le suivre, de lui donner toute sa vie. Vous connaissez peut-être cette histoire d'Abraham Lincoln qui assistait à une vente aux enchères d'esclaves. Et il remarqua le propriétaire d'une plantation sur le point de s'offrir une jeune esclave. Pensant qu'il allait l'acheter simplement pour abuser d'elle, Lincoln renchérit sur le prix afin de pouvoir lui rendre sa liberté. Et elle dit, est-ce que cela veut dire que je peux maintenant dire tout ce que je veux ? Et Lincoln répondit, bien sûr. Elle poursuivit, et aller où je veux ? À nouveau, Lincoln répondit, oui. Puisque tu es libre. Et les joues ruisselantes de larmes, elle murmura, Eh bien, monsieur, c'est avec vous que je veux aller. C'est ça, suivre Jésus. Avoir compris qu'il nous aimait. Accepter de suivre Jésus, c'est payer aussi un prix pour le suivre. Pour vivre comme Jésus a vécu. On a chanté tout à l'heure « Te ressembler, Jésus ». Pour connaître la vie abondante, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La deuxième épître à Timothée dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Et Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce prix, c'est accepter la croix comme un principe de vie. Accepter la mort à notre péché, le dépouillement de notre nature pécheresse, nous donner, nous consacrer dans un service fidèle. C'est pour certains offrir leur vie, comme la multitude de témoins, de martyrs. Les héros de la foi dont nous parle Hébreux 11. Charles Stoud avait pour devise « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. » Vous connaissez plus près de nous, pratiquement déjà tous les disciples de Christ sont morts d'une mort violente. Je voulais citer encore Jim Elliot et ses quatre compagnons atterrir sur une rive de la rivière Curare dans l'est de l'Équateur. Le 8 janvier 1956, les cinq hommes furent tous transpercés à coups de lance et massacrés à coups de machette par des guerriers de la tribu Oka. Jim Elliot disait « Pourquoi certains devraient-ils entendre deux fois ?» alors que d'autres n'ont jamais entendu une seule fois l'Évangile. Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il accepte de mourir si c'est nécessaire. Romains 12 nous dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il ne s'agit pas tous de mourir. Mourir à soi-même chaque jour, dans l'anonymat, c'est des fois difficile aussi. Sans la croix au centre de nos vies, nous vivrons des traditions religieuses sans fruit. Nous n'amènerons pas des gens à Christ. On a besoin, pour être des témoins, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quand Pierre annonçait le pardon des péchés à Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit veut faire de nous des témoins qui portent du fruit. Amen. On peut prier ensemble si vous le voulez. Seigneur, nous te remercions pour ce si grand salut. Un salut éternel, un salut infini, c'est pas un petit salut. C'est pas seulement avoir quelques exaucements, quelques aides ici-bas, mais c'est vraiment la vie éternelle. Un jour, nous serons semblables à toi, dans le ciel. Et Seigneur, nous te prions que cette bonne nouvelle puisse être annoncée partout, sur toute la terre. Nous te prions pour les pays où c'est difficile, où il y a eu des catastrophes, des tremblements de terre, des inondations, des feux. Nous te prions là où il y a la guerre, que ce soit en Ukraine, en Russie, à Gaza ou en Israël. Seigneur, permets que l'évangile de la grâce puisse être annoncé avec puissance. Soutiens, Seigneur, tous tes enfants qui sont malmenés, persécutés, rejetés, et donne-leur de te glorifier dans leur faiblesse, comme toi tu as glorifié Dieu par ta mort et ta résurrection. Seigneur, fais de nous des disciples de Christ, pas des chrétiens du dimanche, mais des disciples chaque jour de la semaine. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.